Midi 13h, le samedi sur M Radio, c'est Sophie Davant.
Bonjour à tous, je reçois ce matin un crooner à la française qui s'est inspiré des plus grands, Frank Sinatra, Elvis Presley, Michel Legrand et son idole de toujours, Charles Aznavour. Un chanteur venu d'une autre époque, amateur de salsa, tango, rock, bossa et autres mambo, un infatigable promoteur de la culture et de la langue française qui n'a de cesse de valoriser en les colorant d'influences extérieures. Il a parcouru le monde pour dénicher les meilleurs orchestres et les meilleurs chefs d'orchestre. Je suis ravie de rencontrer Dany Briand aujourd'hui. Bonjour Dany.
Bonjour Sophie.
2 ans après la disparition de l'une de vos idoles, Charles Aznavour, vous avez décidé d'entreprendre un projet qui vous est cher, reprendre les grandes chansons du grand Charles en leur donnant un petit twist à votre manière. C'était quoi l'idée au départ?
L'idée d'abord, c'est parce que je trouve qu'on n'avait pas beaucoup entendu parler de Charles. Quand il a disparu, j'ai comparé, je me suis permis de comparer avec Johnny Hallyday, et je trouve qu'on a fait beaucoup, et c'était mérité, mais je trouvais que Charles, qui est le chanteur le plus connu au monde, je trouve qu'on n'avait pas été à la hauteur de ce qu'il a amené à la France depuis près de 70 ans de carrière. Donc j'avais envie de le faire en hommage, parce que je crois que c'est lui qui a déclenché ma vocation. Et ensuite, quand j'ai voulu faire le projet, il y avait de tels chefs-d'œuvre en face, que je les ai écoutés, tout le monde les connaît, que ce soit la bohème, et il fallait que je fasse quelque chose de différent, parce que ça susciterait la comparaison. Donc je les ai fait à ma sauce, c'est-à-dire que je les ai fait dansantes, parce que les chansons de Charles sont surtout étudiées pour écouter le texte, et j'avais envie de montrer qu'on pouvait danser aussi là-dessus.
Et donc vous y êtes parvenu, 11 chansons de son répertoire, en leur offrant des sonorités parfois latines, mais pas que, il y a aussi par exemple un peu de mandoline dans Que c'est triste Venise. Et puis on va écouter pour commencer La Bohème, comment vous la qualifieriez celle-ci?
Celle-ci c'est une salsa, une vraie salsa qui se danse en salsa, et je trouvais que La Bohème c'était une chanson gay pour moi, parce que c'est vrai que quand on écoute le texte, on s'aperçoit que c'est un peintre qui a réussi, qui se penche sur ses années, et il pense qu'en fait qu'avant c'était mieux, parce que bon, il galérait un peu, mais il était heureux, il avait l'amour. Et moi j'ai toujours trouvé cette chanson pleine d'espoir sur la jeunesse, donc c'est pour ça que je lui ai donné, j'ai choisi le côté plus gay de la chanson.
Vous aviez eu l'occasion d'en parler avec lui de ce type de projet? Vous lui avez dit un jour que vous reprendrez ses titres?
Non, je ne l'ai jamais pensé, parce que il était là, il défendait son répertoire mieux que personne. C'est quand même imbattable, Charles Aznavour. C'est à sa disparition que j'ai eu envie de le faire, comme une déclaration d'amour. Et puis après, j'ai demandé à la famille s'ils étaient OK. Et eux en revanche, ils étaient d'accord pour le projet.
Allez, on va écouter La Bohème. On va avoir envie de danser la salsa sur M Radio.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. Café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots contre un bon repas chaud nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, le galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Et puis aimer la vie, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire printemps. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Sophie Davant est sur M Radio. Midi 13h le samedi, c'est ravi de vous rencontrer.
Avec Dany Briand aujourd'hui qui vient nous parler de son dernier album, une reprise de 11 chansons de Charles Aznavour, 40 dates de concerts prévues en 2021. À cause de la situation sanitaire, ça va être long d'attendre.
Quand on sort un album à l'automne, on devrait faire le concert au printemps. Mais vu l'atmosphère qui règne, là, j'ai pensé que les gens ne seraient pas très chauds pour aller dans des salles. Parce que comme je voudrais que les gens dansent, je trouve que danser avec un masque, c'est pas terrible.
Dany, dans cette émission, j'aime bien revenir sur les rencontres et les clés de votre parcours qui vous ont construit. Vous êtes né à Tunis, vous avez dû fuir avec votre famille très jeune à cause de la guerre de six jours, la Tunisie, hein, qui opposera Israël à l'Égypte, la Jordanie et la Syrie, c'était en 1967. Vous avez quel souvenir de vie? Vous vous souvenez de cette enfance en Tunisie?
Alors, moi j'ai un souvenir très gai parce que je ne sais pas si mes parents m'ont fait comprendre ce qui se passait. Je sais que mon père a tout lâché du jour au lendemain, comme beaucoup de rapatriés. Mmh. Et j'ai grandi avec cette douceur. J'ai compris plus tard après pourquoi mes parents étaient arrivés en France en catastrophe. Mmh. Mais à l'époque, non, j'ai vécu dans la joie de vivre et dans la douceur, la dolce vita maternelle.
Vous arrivez à Paris à l'âge de 12 ans. Est-ce que vous envisagiez à cette époque de devenir chanteur?
Non, pas du tout. ça s'est fait par hasard. J'envisageais surtout, pour que mes parents soient fiers de moi, de réussir mes études.
Un bac scientifique?
Voilà.
Vous vouliez devenir médecin?
Je voulais devenir médecin, ouais.
Pourquoi cette vocation?
Ça vient du fait que quand j'étais petit, j'étais souvent à l'hôpital. J'ai eu pas mal d'opérations jusqu'à l'âge de 15 ans. Et je disais à ma mère, il vaudrait mieux que je sois médecin pour essayer de régler tout ça. Et puis donc, j'ai fait ça pour faire plaisir à mes parents, je pense. Et puis après, m'installant à Saint-Germain-des-Prés, j'ai fait des rencontres spéciales. Je suis arrivé dans la chanson.
C'est-à-dire à l'époque, vous alliez danser le rock au caveau de la Huchette?
Ouais, exactement. Mais j'étais déjà un peu en marge par rapport à la musique de l'époque. Mmh. Alors c'est vrai, il y avait des endroits qui faisaient perdurer cette tradition de jazz. Et il y avait le caveau de la Huchette, le caveau de la Boée, les Trois Maillets. Mais tous ces endroits-là ont disparu aujourd'hui. Il ne reste plus que les Trois Maillets et le caveau de la Huchette. Mais c'est vrai qu'il y avait des grands orchestres de jazz et j'adorais cette musique.
Bon, on va reparler de tout ça, des rencontres importantes. Il en fait partie, j'imagine. Jean-Jacques Goldman. Pourquoi ce choix? Nos mains?
Jean-Jacques Goldman, parce que je pense que c'est l'équivalent de Charles Aznavour dans les années 80-90. Mmh. C'est-à-dire un garçon qui écrit des choses qui touchent tout le monde, comme ce qu'a fait Aznavour. Mmh. Je pense que c'est lui qui a pris le relais. Mmh. Avec beaucoup d'émotions, des tubes énormes et un succès extraordinaire. Parce qu'on a beaucoup tendance en France à magnifier souvent les chanteurs maudits, les perdants, les mecs un peu angoissés. Et Jean-Jacques Goldman, c'est vraiment l'incarnation, comme Aznavour, qu'on peut faire de la poésie et des textes en ayant un auditoire très très large.
Vous dites d'Aznavour qu'il touche l'universalité de l'homme. Hein, ça ne passe pas par l'intellect ou par le sexe. Mmh. Ses chansons frappent toujours en plein cœur.
Ah oui.
Donc vous diriez la même chose de Goldman.
Voilà, exactement. C'est fait avec le cœur, ça s'entend tout de suite. Ça frappe des millions de gens, c'est que c'est fait avec le cœur.
Le samedi, Sophie Davant vous accompagne dans Ravie de vous rencontrer sur M Radio.
Et c'est Dany Briand que je suis ravie de rencontrer aujourd'hui sur M Radio. On parlait de Saint-Germain-des-Prés. Là, il y a eu un switch dans votre tête, plus question de devenir médecin. Vous commencez à vous produire sur les trottoirs et aux terrasses des cafés?
Oui, c'est bon, comme je disais tout à l'heure, j'étais venu faire mes études. Mmh. Et puis en juillet, je crois que c'est en juillet 82, oui, je cherchais un job d'étudiant et j'en ai pas trouvé. Et un copain qui habitait en face de chez moi me suggère d'aller chanter avec lui sur les terrasses de café. au Café de Flore, au Bonaparte. Mmh, mmh. Je l'ai suivi un peu à contre-cœur.
Quel répertoire vous chantiez alors ?
Alors à l'époque, je chantais toujours, parce que moi j'ai un goût pour le swing. Je chantais du Boris Vian, je chantais du Brassens, je chantais du Moustaki, un truc très rive gauche en fait. Mmh. Et ça plaisait beaucoup sur les terrasses. Et puis après, de fil en aiguille, je suis arrivé dans des cabarets.
Ouais.
Dans ce cabaret qui s'appelle Les Trois Maillets, où j'ai été engagé une semaine. J'y suis resté 5 ans. Et là, j'ai appris mon métier.
Parallèlement, vous vous inscrivez au cours Florent ? Envie de devenir comédien aussi ?
C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai décidé d'être artiste, je pensais à l'école américaine, parce que j'avais des modèles, je pensais qu'il fallait savoir tout faire. Mmh. Il fallait savoir chanter, jouer la comédie, faire rire, danser, etc. Bon, la danse, j'avais appris à droite à gauche, le chant, je le pratiquais sur scène. Il me manquait juste la comédie, je suis allé au cours Florent. Ouais.
Et là, vous êtes repéré par Francis Huster.
Oui, une grande rencontre, puisque Francis m'a programmé dans son film qui tournait à l'époque. Ça s'appelait On allait voler Charlie Spencer. Et il va être à l'origine de mon succès, puisqu'il va me demander dans ce film d'écrire une chanson qui s'appelle Suzette.
Et voilà. Et pourtant, ça n'a pas été gardé au montage.
Oui, ça n'a pas été gardé parce que c'était un peu hors sujet. Je ne sais pas, vous savez, Francis, c'est quelqu'un qui est très, très fantaisiste. Donc, il m'a fait chanter la chanson une quinzaine de fois dans le film pour finalement ne rien garder. J'étais un peu triste. Mais
vous en avez voulu ?
Non, pas du tout, parce que j'avais 20 ans, donc j'étais tranquille, j'avais encore un peu de temps pour avoir du succès. Mais 5 ans après, la chanson est sortie et c'est devenu un tube énorme. Alors, je n'en ai jamais voulu, au contraire. Et vous savez que l'histoire, vous connaissez l'histoire. En fait, Suzette, c'est le prénom de la mère de Francis.
Ah ben non, je ne savais pas.
Voilà, je vous le dis.
Vous avez choisi Céline Dion. Comment justifiez-vous ce choix ?
Céline Dion, je crois que c'est... Bon, déjà, pour moi, quand on aime les grands entertainers américains, je pense que Céline Dion, c'est vraiment la chanteuse de Las Vegas. C'est tout ce que j'aime. La chanson, les paillettes, le répertoire. Et puis surtout, elle m'a offert un jour la première partie du Stade de France. Un jour, alors que j'étais jeune débutant, je suis passé en première partie du Stade de France. Et ça, c'est quand même énorme, parce qu'il y avait 100 000 personnes. Et moi, je jouais devant des gens, des salles où il y avait 300, 400.
Alors, ça fait quoi, là ? On ressent quoi ?
Ça fait que, comme ça a bien marché, je me suis dit finalement...
Il y a quand même un trac inouï.
Ouais, il y a un track inouï.
Se dire qu'on passe avant Céline Dion.
Ouais, exactement.
Elle a été sympa avec vous, elle vous a rassuré.
Elle a été sympa et elle m'a donné le plus beau conseil de ma carrière que j'ai toujours essayé de garder. C'est qu'elle est venue dans ma loge un peu avant et elle m'a dit « amuse-toi ».
Charles Aznavour, vous en avez donné un autre ?
Charles Aznavour m'a dit « c'est pas mal tes chansons, mais il faudrait chanter des trucs un peu plus sérieux. Voilà. »
Arrête avec que des chansons d'amour.
Voilà, arrête un peu les guignolades, les Suzette, les machins. Il faudrait que tu nous chantes un peu des trucs un peu de société et tout ça. Et je l'ai suivi aussi.
Midi 13h, le samedi sur M Radio, c'est Sophie Davant.
Et je suis ravie de rencontrer Dany Briand qui chante Aznavour, un nouvel album, 11 titres repris de Charles Aznavour, à la mode Dany Briand, on danse, on swing. Plus de 40 dates en France prévues, mais en 2021 seulement, à cause de la crise sanitaire. On en était à Suzette, c'est l'occasion pour vous de signer un premier album et recréer l'environnement qui vous plaisait tant de Saint-Germain-des-Prés.
Exactement. Je trouvais qu'il y avait un manque dans la chanson française à ce moment précis, fin des années 80. Je trouve que toute la tradition des crooners, qui pour moi qui passait de... Bon, on va prendre juste les Français, parce qu'en Amérique, on les connaît, mais il y avait Sacha Distel, il y avait Henri Salvador, il y avait Becco Aznavour. Je trouve qu'il n'y a aucun jeune qui se réclamait de ce courant. Et j'ai dit, moi, je vais le prendre, moi, ça va être mon emploi. D'autant plus que j'avais ce goût pour ça, et je crois que même j'avais un peu la voix. Mmh. Parce que vous savez, on a la morale de sa force. Mmh. Si on fait quelque chose, c'est parce qu'on peut le faire. Mmh. Et donc, voilà, c'est vrai que j'ai dans mon premier album, quand on écoute, on retrouve un peu le parfum de cette ambiance de cave, de club, de cabaret que j'aimais beaucoup à l'époque. Un album, c'est comme un film, ça doit procurer une certaine évasion. Voilà, c'est pas juste de la musique, c'est toute une atmosphère.
C'est comme ça que vous écrivez vos chansons, il faut qu'elles racontent une histoire.
Voilà, une histoire, un décor, un sentiment et puis de l'exotisme. Voilà.
C'était le cas d'ailleurs des chansons de Charles Aznavour, à chaque fois il y avait une histoire. Qu'il interprétait incroyablement sur scène.
Charles Aznavour, c'est un acteur qui chante. Ouais. Je pense qu'il a une formation de théâtre. Il voulait être acteur d'abord au départ. Et il a mis en scène du théâtre en chanson. Vous voyez d'ailleurs, comme vous le dites, vous dites « J'habite seul avec maman ». Tout de suite, ça crée le... Vous voyez, la misère serait moins pénible au soleil. On est dans l'ambiance. À 18 ans, j'ai quitté ma province. En une phrase, il a planté un décor et une action.
Mais alors là, comment vous allez les interpréter, vous, sur scène ? Parce que du coup, ça va swinguer, donc il y aura peut-être un ressort moins dramatique.
Parce qu'en fait, même dans les chansons les plus dramatiques de Charles Aznavour, il y a toujours une phrase où il y a un rayon de soleil. Et je me suis basé sur cette phrase. Par exemple, dans le type de Je me voyais déjà, qui dit « Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent ». C'est jamais totalement désespérant, les chansons de Charles. Donc moi, j'ai choisi cette phrase-là et j'ai construit un truc plus lumineux autour. Et comme je veux que ce soit dansant, bah, je vais essayer de faire danser les gens. Mais j'espère quand même qu'ils garderont le côté très littéraire du texte. Il faut trouver la dualité.
Alors là, on va écouter « Je me voyais déjà ».
Bah ça, c'est la chanson de tous les mecs qui commencent ce métier, même pas seulement les métiers artistiques, je pense journaliste aussi, c'est pareil. Quand on arrive à 18 ans, on connaît personne, on n'a pas de relation, et on essaye de voir comment on va s'en sortir, trouver son chemin. Et voilà, je pense que c'est une chanson, quand on parlait d'universalité tout à l'heure, je pense que c'est vraiment la chanson la plus universelle de quelqu'un qui démarre dans tous les métiers et qui veut essayer de réussir.
Alors à la mode d'Annie Briand, ça donne quoi? Vous l'avez switché comment?
Bah là, vous allez voir, c'est un merengue.
À la base, merengue.
C'est un merengue, c'est une
celui-là,
danse.
Je ne sais pas le danser.
Voilà. Si, c'est facile. C'est plus facile.
C'est facile. Ok, je vous suis. Alors.
On peut essayer, oui.
Je me voyais déjà Charles Aznavour réinterprété par Danny Briand. C'est sur M Radio.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pouvait par faveur se pendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis, j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi je suis sûr au moins que j'ai du talent. Bleu, y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte-à-porte, pour subsister je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats. Les minables cachets, les valises à porter, les petits meubles et les maigres repas. Je voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement mes soirs de première, ni le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas de ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance, d'autres ont réussi avec peu de voix mais beaucoup d'argent. Moi j'étais trop dur ou trop en avance, mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
Sophie Davant est sur M Radio. Midi 13h le samedi, C'est ravi de vous rencontrer.
Avec Dany Briand, aujourd'hui mon invité sur M Radio. On parle bien sûr de ce disque Dany Briand chante Aznavour qui vient de sortir. 11 titres repris par Dany Briand à la sauce Dany Briand, donc très différent de Charles Aznavour. On va parler justement de votre relation au grand Charles. Vous dites que c'est presque oedipien puisque Aznavour était le dieu de votre mère. Quel a été votre premier souvenir d'Aznavour?
Alors, je l'ai découvert par les disques. Hein. Ma mère écoutait que ça. Je vous dis que ça. Il n'y avait pas d'autres chanteurs. Et elle m'a emmené un jour donc le voir à l'Olympia quand j'avais 11 ans. Enfin, elle devait y aller avec mon père. Et mon père, il n'a pas pu. Il était bloqué dans un train ou je sais pas quoi. J'y suis allé. Et c'est la première fois que je le voyais sur scène. En plus, il était au sommet de sa gloire. Et j'ai eu un choc. Voilà, je m'en suis jamais remis et j'ai vu un artiste total dont la voix, les musiques, les paroles m'ont enchanté.
À quel âge alors vous avez
J'avais 11 ans. J'avais 11 ans et je savais pas que j'allais devenir chanteur, mais en tout cas, ça m'a accompagné après toute mon adolescence et je faisais partie des rares adolescents d'époque qui aimaient Charles Aznavour alors que tout le monde aimait, vous savez, les trucs de l'époque, quoi. Michael Jackson.
Vous le rencontrez enfin lors d'un hommage à Charles Trenet, c'était au Festival de Jazz de Montreux. Ça s'est fait comment? C'est lui qui vous a convié?
C'est-à-dire que je suis allé donc. Comme on savait que j'aimais le swing, on m'a demandé de faire deux trois chansons pour traîner en 97 à Montreux, accompagné par l'orchestre de George Duke, et ça c'était quelque chose quand même. Et Charles Aznavour était dans la salle, parce qu'en fait, vous savez que le maître de Charles Aznavour, c'est Charles Trenet. Donc il est venu me voir après en loge, et il m'a dit qu'il aimait bien mon style, ma différence, etc. Puis après, on s'est plus quitté.
Une sorte de relation père-fils même, carrément.
Oui, ou maître-élève, parce que je pense que dans un métier, que ce soit la peinture ou quand on est écrivain, voire journaliste, je pense qu'on a besoin d'un maître, c'est-à-dire un horizon, en fait, qu'on voudrait atteindre, même si on ne l'atteint jamais, mais qui donne un peu un repère pour essayer de se dépasser. Donc je l'avais pris comme maître, moi. Et lui, il me donnait des conseils, donc il remplissait son rôle de maître. Il essayait de m'aiguiller, me dire, voilà, là, ça ne va pas, etc.
Il vous a quand même embarqué en Arménie avec lui?
Oui, oui, quand il y avait des grands événements à Aznavour, il m'invitait. Voilà, il m'invitait et moi je prenais ça comme une reconnaissance. En plus, oui, j'ai chanté en Arménie en 2006 avec Jacques Chirac qui était du voyage, etc. Je crois que c'est même l'année où le gouvernement français a reconnu le génocide arménien. Parce qu'on ne sait pas, mais il y a beaucoup de gouvernements qui n'ont pas encore reconnu le génocide, certainement pour des raisons politiques. Et lors de ce voyage, ça a été fait. Et voilà, j'étais en Arménie, j'ai chanté avec lui. Et bon, vous imaginez le petit de 11 ans qui voit Aznavour à l'Olympia et puis quelques années plus tard qui se retrouve en Arménie avec lui, c'était un rêve, quoi.
Le samedi, Sophie Davant vous accompagne dans Ravie de vous rencontrer sur M Radio.
Avec Dany Briand aujourd'hui qui vient nous parler de son dernier album, une reprise de 11 chansons de Charles Aznavour. Alors, vous revenez à Saint-Germain-des-Prés, c'est comme ça qu'a débuté ce projet d'album quand même. Vous êtes au Café de Flore avec votre manager.
Alors, voilà comment est né le disque, parce qu'évidemment, moi, j'ai pas eu l'idée vraiment. C'est pas moi, j'oserais jamais. Je pensais un jour faire une reprise, une seule chanson de Charles, mais tout un album. J'aurais jamais osé, comme c'est le maître. Pour moi, c'est intouchable. Ouais. Et voilà ce qui s'est passé. C'est que moi, je suis quelqu'un d'assez mystique. Je fais très attention aux signes que la Providence m'envoie. Bon, voilà, sans être croyant, je sais pas, mais je crois beaucoup qu'il y a quelque chose. Bon, je suis au Café de Flore il y a un an avec mon directeur artistique de chez Warner. Il me dit, Dany, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je sortais d'un album assez swing, rock. Je lui dis, écoute, je vais revenir au latino. Il me dit, pourquoi tu ferais pas un tribute à Charles Aznavour? Alors je lui dis, tout un album, t'es sûr? Il me dit, oui, c'est ça. Je sais que vous avez une filiation, tout ça, ça peut marcher. Et à ce moment-là, au moment où je dis ça, il y a Katia Aznavour, la fille de Charles, qui passe devant le Café de Flore.
Dingue.
Elle peut confirmer, elle peut dire oui. D'ailleurs, j'ai fait un petit film où on la voit dire, ah ouais, Dany, bon bref. Et alors je lui dis, mais c'est fou que tu passes, je l'ai jamais croisé. Je la connaissais, j'étais à son mariage par exemple, vous voyez, mais je ne l'ai jamais croisé dans la rue. Et alors à ce moment-là, je lui dis, écoute, c'est fou que tu passes parce qu'on était en train de parler d'un projet sur ton père et tout ça. Et elle me dit, ah oui, c'est une très bonne idée, il n'y a pas de problème parce qu'il faut demander à la famille quand même. Et après, j'ai appelé ses deux autres frères, Micha et Nicolas, Nicolas qui est en Arménie et Micha qui est à Paris. Et ils m'ont tous dit oui, donc j'y suis allé.
Et alors, comment ils ont réagi?
Et alors, Katia, finalement, elle est venue chanter sur l'album. On a fait un duo sur Que c'est triste Venise.
D'habitude, vous allez chercher des chefs d'orchestre à l'étranger. Là, vous vous êtes plutôt tourné vers un Français, Jean-François Berger. Pourquoi
voilà.
Lui?
Parce que je trouve qu'Aznavour, en fait, on ne peut pas dire que sa musique est ancrée dans un pays particulier. C'est vraiment de la chanson française, je dirais même parisienne. Et j'ai voulu faire cet album à Paris. Et je l'ai fait d'ailleurs à Saint-Germain-des-Prés. Et j'ai pris Jean-François Berger, qui est pour moi le plus grand chef d'orchestre actuellement. Je voulais des grands orchestres. Il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui qui font des grandes orchestrations comme à l'époque. Et voilà, j'ai pris ce chef d'orchestre qui est prodigieux.
Christophe Maé, là encore, c'est un artiste de la jeune génération
qui vous touche. Qui me touche parce que d'abord, il a une longévité. Mmh. Et ce n'est pas évident aujourd'hui. Parce que tenir, la vraie réussite pour moi aujourd'hui, c'est durer plutôt que commencer. C'est très facile de commencer aujourd'hui. Il y a plein d'émissions, on peut commencer. Mais quand on dure comme ça 10-15 ans, c'est qu'avec le public, c'est qu'il
y a... Alors qu'est-ce qu'il faut pour durer justement ?
Eh bien, il faut avoir ce qu'a Christophe Maé, c'est-à-dire une personnalité. Ouais. C'est-à-dire que quand on écoute, personne ne chante comme lui. Mmh. Il n'y a que lui qui fait cette musique. Mmh. Et dans ses textes, il y a énormément de positivité. Mmh. Et je pense qu'un chanteur qui est très positif, c'est de plus en plus rare. La plupart des chansons que j'écoute sont anxiogènes. Mmh. Voilà. Et lui, je trouve qu'il donne aux gens envie de vivre.
Ravi de vous rencontrer sur M Radio avec Sophie Davant. Les 5 dernières questions.
Dany Briand, si on vous donnait une baguette magique, là tout de suite, dans l'absolu, mort ou vivant, qui aimeriez-vous rencontrer ?
Lino Ventura.
Ah, ça m'étonne pas ça. Ouais. Hein, vous avez quelque chose de Lino Ventura.
C'est ce que m'a dit sa femme.
On vous imagine avec des chemises bleu ciel, ouais. Retournées sur les avant-bras musclés. Ouais. Montrez-moi vos avant-bras.
Oh, ils ne sont pas très musclés, mais...
Ah, si, ça peut le
faire,
ça.
Mais vous savez que j'ai appelé mon fils comme ça, j'ai appelé mon fils Lino.
Ah ouais.
Parce que je pensais qu'en lui donnant le nom d'une de mes idoles, il aurait ses valeurs. Mmh. Pour moi, Lino, c'est vraiment l'incarnation de...
Quelles sont-elles, alors,
ces valeurs ? Ben, la droiture, l'honnêteté, la force... l'humour, la réserve et quelque chose. Moi, je sais, par exemple, quand je vais pas bien, je vais regarder un film de Lino Ventura et je reprends des forces auprès de lui. C'est quelqu'un qui avait... Il y a plus d'équivalent aujourd'hui d'acteurs comme ça vers lequel on a envie de se réchauffer. Peut-être le dernier, ça aurait été Depardieu, mais il est plus fou que Lino. Donc, il peut nous mettre en insécurité. Mais Lino, je sais pas, il nous rassure. Voilà.
Parmi vos chers disparus, qui aimeriez-vous retrouver ?
Des miens, bien sûr. Mmh. Ah, je crois que c'est mon père. Mon père, voilà.
Vous aviez quel âge quand il est parti ?
J'avais 32 ans. Mmh. Il a vu mon succès, donc j'étais content, parce qu'il n'y croyait pas du tout.
Mmh. Il faisait quoi ?
Il était épicier à Montmartre. Mmh. Et quand je lui ai dit que j'allais devenir saltimbanque, évidemment, il était en panique. Mmh. Parce que chez moi, c'était assez modeste, donc il fallait s'en sortir. Mais j'aurais bien aimé encore faire un bout de chemin un peu plus long, quand même. Mmh. Qu'il voit mes enfants, qu'il voit tout ça.
Quelle est la rencontre de votre vie ?
Ah, je crois que c'est Charles Aznavour. Parce que j'ai eu la chance, en fait, de le connaître, ouais. Aznavour. J'aurais pu ne pas le connaître,
bien sûr.
Mais de par sa longévité, parce qu'il a eu 94 ou 95 ans, j'ai pu le rencontrer. Et c'est une rencontre extraordinaire parce qu'il m'a donné beaucoup de conseils. Et puis, en le voyant, j'ai appris le métier. Parce que je me suis aperçu que c'est un métier, la chanson. Ouais. Mais Aznavour, il se levait tous les jours à 6h du matin, il écrivait ses textes encore. Et quand on sait que c'est un vrai métier, en fait, on se met au travail, quoi.
Quelle a été la plus belle rencontre avec vous-même ? À quel moment vous vous êtes dit... Là, je me suis trouvé.
Écoutez, je crois que quand j'ai fait Bercy. Mmh.
Parce que, donc c'était en quelle année ?
C'était en 2008.
Ouais.
Parce que Bercy, quand même, il faut le faire. Quoi. C'est tellement vaste, c'est tellement grand.
Ouais, mais quand on a fait le Stade de France avec
Céline Dion. Oui, mais c'était en première partie, c'était pas pour moi. Ouais. Bercy, les gens sont venus pour moi. Et alors personne, quand moi je sortais quand même d'un petit cabaret, j'avais un style un peu bizarre... Et tout le monde pariait pas plus de 2-3 ans sur moi. Et je l'ai fait, et donc j'étais très content. J'étais fier de moi, je peux le dire. J'ai une fierté, parce qu'avec mon style, sans jamais renier à la mode et tout ça, j'ai gardé ma ligne, et un jour, le public est venu.
Mmh. Si vous croisiez le petit Dany Briand, il a 6-7 ans, enfin à l'époque il s'appelle Daniel peut-être.
Dany Cohen.
Ouais. Quel conseil vous lui donnez ?
À celui de 6 ans ?
Ben oui, à Dany Cohen vous croisez.
Je lui dis, sois toi-même. Voilà, affirme tes goûts, cultive ta différence, reste qui tu es. Voilà.
Merci Dany, très bel album que cette reprise de 11 titres de Charles Aznavour. On swing, on est ému, on danse la salsa, et puis c'est un bonheur de réentendre ces textes magnifiques. Et puis une tournée prévue en 2021. Merci d'avoir été mon invité.
Ravi de vous rencontrer avec Sophie Davant, à retrouver dès maintenant en podcast sur mradio.fr.